Secours Bezrat Hashem pour la réussite de
Moshe Akos Bar Avinoam
et de sa petite fille
Ethel
Ethel Brigitte Révital Bat Rivka. Voilà.
C'est quoi Bezrat
Hashem? Et une réfoua Shlema aussi pour la maman Rivka Bat Zava.
La soeur de Massi.
Voilà. Et une réfoua Shlema pour mon petit frère, il va s'opérer.
Une réfoua Shlema aussi pour
Meir. Ben Reina.
Mir Ben Reina Berchel. Ok, on y va. Alors, on va, Bezrat Hashem, aujourd'hui développer. On va revenir à chapitre 41. On va revenir sur une idée qu'on a expliquée dans la page de garde du Tanya. La page de garde du Tanya, on avait dit que le livre du Tanya était basé sur un verset qui dit Ki karov elecha adavar meod beficha uvilvafra la soto. Je traduis. Moshe Rabbeinu nous dit, au Bnei Israël, il nous dit que la chose, c'est-à-dire servir Dieu, c'est très accessible de chacun de nous, dans notre bouche, dans notre cœur, pour le faire, ça veut dire en pensée, parole et action. Alors si vous voulez bien, ce qu'on a fait jusqu'au chapitre 41, puisqu'on est au chapitre 41 maintenant, pendant les 40 premiers chapitres du Tanya, dans cette partie du Tanya, il y a 53 chapitres. Ça, vous voyez, 53, oui. Et donc là, on a déjà étudié 40 chapitres. Pardon ?
Non, j'ai jamais fini avant Kippour, alors.
Ah non, c'est pas mal, quand même. On a déjà dépassé les deux tiers. Donc, dans les 40 premiers chapitres du Tanya, on a expliqué comment chacun de nous pouvait facilement, pas facilement, en tout cas de façon accessible, servir à Kadosh Baruch Hu. Servir à Kadosh Baruch Hu, puisqu'en vérité, on a expliqué que nous avons des outils au fond de nous qui nous permettent de servir à Kadosh Baruch Hu comme il se doit. D'accord. Maintenant, je ne veux pas trop m'arrêter dessus, je vais m'arrêter surtout sur la suite. Dans les chapitres suivants, on a expliqué l'importance des sentiments dans la Torah. L'importance des sentiments, que bien que ce qui compte, c'est l'action, mais l'action n'est pas suffisante, il faut développer des sentiments, c'est-à-dire il faut développer un sentiment d'amour et de crainte. Et là, on arrive à une grande question. Grande question que plusieurs ont posée et qu'on va essayer de développer aujourd'hui, à savoir, entre l'amour et la crainte, quel sentiment doit venir en premier? Alors, je vais parler de Dieu, mais en vérité, je ne suis pas obligé de parler que de Dieu, je peux parler de beaucoup de choses. Je vais parler aujourd'hui de la crainte de Dieu. Entre l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu, lequel doit venir en premier? En d'autres termes, si je vous pose la question, bah, je vais un peu modifier la question. D'après vous, qu'est-ce qui est plus important? Craindre Dieu ou aimer Dieu? Alors, c'est pas seulement la question qu'est-ce qui est plus important, mais qu'est-ce qui produira de meilleurs résultats? Qu'est-ce qui changera mieux votre comportement? Est-ce que c'est le fait que vous avez la crainte de Dieu ou est-ce que c'est le fait que vous aimez Dieu?
C'est la crainte. Parce que la crainte suppose que tu ne respectes pas.
D'accord. Bon, alors j'entends vos réponses. Et c'est une question qui est très complexe. Parce que cette question, on peut l'appliquer sur toutes les relations qu'on a. Relation avec sa femme, relation avec ses enfants, etc. Et rappelez-vous ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Dans toutes les relations, il y a un aspect crainte et un aspect amour. Obligatoirement. Il y a un aspect respect et un aspect approche, qu'on s'approche. C'est pour ça que Dieu nous écrit avec deux mains. La main droite, la main gauche. Parce qu'il y a toujours un aspect qui rapproche et un aspect qui garde à distance. Toujours les deux. Et la question est lequel doit commencer en premier? Est-ce que l'aspect le plus important, ou en tout cas l'aspect prioritaire, c'est la crainte? Ou est-ce que l'aspect prioritaire, c'est l'amour? Voilà, donc pour être clair, ça veut dire, je vous pose un peu la question de façon plus claire, ça veut dire, lorsque tu as un juif qui est là, je vais éduquer par exemple quelqu'un à faire la Torah et la Mitzvot. Est-ce que je dois l'éduquer par la crainte et après il viendra à l'amour? Ou d'abord je dois l'éduquer à l'amour et après il viendra à la crainte de Dieu? Alors évidemment,
on donne de l'amour, d'abord. Un enfant quand il naît, on donne de l'amour, on n'a pas de la crainte.
Amen. Évidemment, oui.
Un enfant quand il vient, il donne de l'amour d'abord, avant la crainte. Quand il naît un enfant,
oui.
C'est de l'amour qu'on lui donne.
D'accord, ce que vous dites.
Voilà. Donc, après, le reste vient. Après,
maintenant, quand on sert à Kadosh Baruch, comment ça se passe? Quel est l'ordre? Est-ce qu'on commence par la crainte de Dieu ou l'amour de Dieu?
L'amour de Dieu.
Alors, voilà.
Ça dépend.
Alors on va voir.
Si on regarde l'épisode où il les a menacés de leur inverser, de leur retourner la montagne sur la tête, c'est plus la crainte que chose, parce que...
Très bien. Ok, alors on continue. Braham, donc voilà, ça c'est la question qu'on se pose. La question qu'on se pose est une question très simple, à savoir, qu'est-ce qui est prioritaire entre la crainte et l'amour d'Akadosh Baruch? Alors la réponse, que le Mourazaka va nous expliquer. Alors évidemment, avant de développer la réponse, je dois préciser de façon très claire que, quoi qu'il en soit, il faut les deux. Il faut l'amour et il faut la crainte. La question ne se pose pas, il faut les deux. Et que l'amour est un aspect très important. Combien de gens on connaît qui servent à Akadosh Baruch que par crainte? Et c'est pas bon. Parce que quelqu'un qui sert Dieu que par la crainte, ça veut dire que c'est comme ça qu'il va éduquer ses enfants, etc. Ça veut dire que pour lui, dès qu'il va rentrer chez lui à la maison, le Shabbat, c'est fait pas ci, fait pas ci, fait pas ci, fait pas ci, tout à la crainte. Et lorsque les enfants posent la question, papa, pourquoi c'est comme ci? Parce que c'est comme ça, et fait pas ci, et fait pas ci, c'est pas bon ça. Donc évidemment, la question ne se pose pas. Il est clair qu'à un moment ou un autre, on devra faire appel à l'amour. C'est pas ça la question. La question est lequel doit commencer en premier?
Là, le dosage.
Alors écoutez la réponse de l'Admor Zaken. Et ce chapitre 41 est un chapitre très important, dans le sens que il y a plusieurs lettres du Rabbi, si mes souvenirs sont bons, une bonne quarantaine de lettres du Rabbi, que le Rabbi a adressées à des gens, peut-être même encore plus, dans lesquelles des gens écrivaient au Rabbi qu'ils avaient du mal à se concentrer dans la Tfila, parce que qui n'a pas de mal à se concentrer dans la Tfila, et le Rabbi leur répondait, il leur disait d'apprendre le début du chapitre 41 par cœur.
Par cœur.
Alors le chapitre 41 est un chapitre très long, qui fait plusieurs centaines de lignes, d'accord. Mais ce que le rabbi a demandé d'apprendre, c'est seulement jusqu'à le mot, je vous donne la page, d'accord, qui omet l'Iftah Meler, début de la page 230. C'est pas grand chose. C'est l'équivalent d'une dizaine de lignes. Donc. Et il a demandé d'apprendre ça par cœur. Et vous allez comprendre quand on va développer ce qu'on développe aujourd'hui. Pourquoi, en hébreu, en français, bon. Pourquoi il a demandé de l'apprendre par cœur? Parce qu'en vérité, ici, on a une technique très claire pour nous apprendre comment amener la crainte de Dieu dans notre vie. La crainte de Dieu dans notre vie. Là, on commence par la crainte. C'est la
réponse.
Alors, on va voir, attendez, il faut qu'on développe. Quelle crainte? Pourquoi la crainte? Comment la crainte? On va développer. Parce que c'est facile de dire la crainte. Et si j'ai pas peur de Dieu, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour avoir peur de Dieu? D'abord, c'est quoi la crainte? Faut que je me dise, attention, j'ai le guidon qui m'attend. C'est quoi la crainte?
Tu peux te dire que ne pas faire la si c'est pas ça, il peut m'arriver ça. Voilà. Et pourquoi j'ai pas
fait? Ah, donc c'est ça, donc d'après vous, tu vois, truc, je me lève un matin de bonne humeur, et avant de faire la tefila, je dis, attends, sois pas de bonne humeur! T'as le guidon qui va te tomber sur la tête aujourd'hui. C'est ce qu'on attend?
De toute façon, on va aller
au Karcher. Karcher, c'est pas mal.
Ouais. Ça dépend.
On n'est pas dans la banlieue.
Oui, je... Ça dépend de qui traverse les cités le matin.
Alors, on y va. Porte de l'eau, s'il vous plaît, là-bas. Merci.
Tu pars avec le revente, non?
Merci.
C'est
ça? Alors, on y va. Braham, cependant, page 226. Merci.
226.
Merci. Braham, cependant, tsarich liot les zikaron tamid, il faut se souvenir tout le temps. Reshit avoda veikara veshorcha. Il faut toujours garder en mémoire ce qu'est le début du service de Dieu, le principe du service de Dieu et la racine du service de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est une base fondamentale du judaïsme. Quelle base on va expliquer? Vehu et c'est qui av shaira ishoresh les tourmera veava leva asetov. Bien que globalement, la crainte de Dieu est la base de toutes les mitzvot négatives. Puisque pourquoi je ne transgresse pas une mitzvah négative? Parce que j'ai la peur. Et que l'amour de Dieu veava leva asetov. Bien que de façon générale, la crainte de Dieu c'est le moteur de toutes les mitzvot négatives. Et l'amour de Dieu, c'est le moteur de toutes les mitzvot positives. Néanmoins, à Falpiken quand même, page suivante, l'odai le horaire à Ava, l'Evada, l'Evasetov. Il ne suffit pas d'éveiller l'amour seulement pour faire le bien. On va prendre un exemple concret. Imaginons par exemple, je demande à quelqu'un de ne pas profaner le Shabbat. Là, je peux comprendre que pour ne pas profaner le Shabbat, il doit faire appel à quel sentiment? Un sentiment de crainte de Dieu ou d'amour de Dieu? Pour ne pas profaner le Shabbat, c'est la crainte, c'est évident. Bon. Maintenant, imaginons que je demandais à quelqu'un de mettre les tefillin. qu'est-ce qu'il doit sentir quand il met les tefillin? Normalement, c'est de l'amour. C'est un acte positif. Donc, on aurait pu penser que quand j'accomplis un acte, quand je me retiens d'accomplir un acte négatif, dans ce cas-là, c'est la crainte. Et quand j'accomplis une chose positive, c'est quoi? C'est l'amour. Répond l'Admor Hazak et il dit, globalement, c'est vrai. Mais, il faut savoir que même pour une mitzvah positive, l'amour ne suffit pas. Et au préalable, avant de passer à l'amour, ou les fachot, et au moins, tsarir le horer trila aïr a ativit, il faut d'abord éveiller, en soi, la crainte naturelle qu'on va développer. Amesu teret belev kol Israël, qui est caché dans le cœur de tout Israël, chez l'olimrod be melech malchea melachim akadosh baruch aniskar liel, une crainte qui me pousse à ne pas me révolter, chas v'shalom, contre Dieu qui est le roi des rois, comme on l'a développé plus tôt et comme on va le développer plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Admor Hazak te dit, même pour une mitzvah positive, comme mettre les tefillin, comme mettre une mezouzah, comme faire Shabbat, l'aspect positif du Shabbat, faire ton kiddush, etc. Tu ne peux pas te suffire de l'aspect amour, il faut aussi faire appel à l'aspect crainte. Et de quelle crainte je parle? De quelle crainte je parle? Je parle de la crainte naturelle que chacun de nous a en soi, de ne pas se révolter contre Akadosh Baruch. Bon, alors qu'est-ce que concrètement ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais pour arriver à ça? Et là, c'est très important ce qui va suivre, parce que l'Admor Hazaken va nous donner une technique que chacun de nous peut appliquer dans sa vie. Et je peux vous dire, je l'essaye très souvent et ça marche. Et toutes les personnes à qui j'ai dit, ça marche. Vas-y. Je vous promets. Ça veut dire que je me rappelle encore, jusqu'à aujourd'hui, le dernier passage qu'on a fait du Tanya, donc ça remonte quand même à près de, je crois, 6 ans, 5 ans ou 6 ans. Quand on était au chapitre 41, je me rappelle encore aujourd'hui, je crois qu'on enregistrait déjà, et on avait justement fait ce chapitre, et j'en avais expliqué ça. J'en avais expliqué au cours, on était un peu moins nombreux. J'en avais expliqué que dans ce chapitre, on t'explique... Non, moins nombreux. Non. Je me rappelle comment on était, je me rappelle même où on était. On était dans l'autre salle, on était de l'autre côté. Bon, peu importe. Et en tout cas, je me rappelle comment on avait expliqué que l'Admor Hazaken nous donne une technique, des techniques, comment chacun de nous peut générer la crainte de Dieu en soi. Chacun de nous. Et je dis bien chacun. Et je me rappelle comment on avait fait l'essai et que plusieurs étaient venus me voir après le cours, quelques jours plus tard, et qui m'avaient dit, écoute, ça marche. La vérité. Véridique. Bon, là, je sais que je crée des... une attente, si vous voulez. Je dis, attends, qu'est-ce que vous nous racontez? Ça marche. Ça veut dire que là, mon but maintenant, c'est d'expliquer à chacun comment on peut générer en soi la crainte d'un cadeau de jour. Maintenant, je parle pas d'une crainte de tzadikim. Il y a la crainte des tzadikim, qu'eux, ils savent ce que c'est, la crainte révérentielle, etc. C'est pas de ça que je parle. Là, je parle d'une crainte basique. Mais une crainte basique que n'importe quelle personne peut éveiller. Alors, c'est quoi cette crainte basique? Alors, il explique. J'étais ébéd galout libo omocho al kolpanim, donc une crainte qui va être éveillée dans son cœur, ou au moins dans son esprit. Parce que vous savez, la crainte, ça peut être un sentiment dans le cœur, et ça peut être aussi un sentiment dans la tête. Ça veut dire que c'est quelque chose que des fois on n'arrive pas à amener le sentiment dans son cœur, mais dans ma tête, je comprends que c'est important. Et il donne l'exemple. Et il explique comment ça fonctionne. Da'inu, ça veut dire. Voilà la technique que donne le Morazaken. Leid bonen de marchafto. Réfléchir avec sa pensée. Alcool panim, au moins. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs façons de réfléchir. On peut réfléchir avec la pensée, et après, avec le temps, on peut carrément sentir avec le cœur. Donc, le top, normalement, un sentiment, on doit le sentir à quel niveau? Dans le cœur. Un sentiment, c'est pas intellectuel. Mais, dit l'Admor Hazaken, c'est pas grave. Quelqu'un va dire, moi, je sens rien. Dans mon cœur, je sens rien. Ok, pas de problème, tu sens rien, c'est pas grave, t'inquiète pas. On va pas s'occuper de ton cœur, on va s'occuper de ta tête. Donc, on va te demander à réfléchir à ce qu'on va te dire maintenant. Réfléchir, tu peux réfléchir. Je te donne un texte, je dis réfléchis à ce qui est écrit. Tu peux ou pas? Ben, tu peux. Tout le monde peut faire ça. Alors à quoi tu vas réfléchir? On va lire ensemble. En bas de la page 227. Da'inu, ça veut dire Leit bonen bemarchavto al kolpanim. Réfléchir dans sa pensée à tout le moins. Ça veut dire au moins dans la pensée. C'est pas dans le cœur, au moins dans la pensée. Gdulat ensof baruchu umalchuto. Essaye de réfléchir. Alors attention, c'est une réflexion en plusieurs étapes. Donc il faut suivre. Mais vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, on va procéder par étapes. Il y aura un élément, après un deuxième, après un troisième, après un quatrième. Et quand on va ajouter, additionner les éléments les uns après l'autre, on va dire, mais oui, c'est vrai, c'est évident. Bah oui. Alors, on va voir. Attendez, il faut voir la suite. Alors, voici le premier. D'abord, attendez, j'ai rien dit encore. J'ai rien dit. Derrière nous, ça veut dire. Donc, d'abord, première chose à laquelle je réfléchis. je réfléchis à quel point Dieu est très très grand. Alors, chacun va s'imaginer à quel point Dieu est grand. Si vous demandez à un enfant de s'imaginer comment Dieu est grand, il va te dire, ben, Dieu est grand, ça veut dire que Dieu, c'est le ciel. Bon, peu importe. Tu vas demander à un adulte, il a un esprit qui est un peu plus élaboré, et il va dire, non, Dieu est grand, ça veut dire que Dieu, il maîtrise toute ma vie, etc. Alors, peu importe. Essayez de fermer les yeux avec moi maintenant, et essayez de réfléchir à quel point Dieu est très, 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 très grand. Voilà, Serge, il a fermé les yeux, très bien. Non, mais c'est sérieux. Imaginez comment Dieu est très, très grand. Oubliez vous-même. Oubliez la Torah, oubliez tout le monde. Pensez à Dieu. Pensez à quel point Dieu est très, 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 très grand.
Il est partout.
Il est partout. Je continue. Maintenant, Asherhi, il nous donne un élément. Tu peux ouvrir les yeux, c'est bon. Asherhi, malchut kol olamim. Quand je dis que Dieu est grand, ça veut dire quoi? On va essayer de parler aux adultes maintenant. Ça veut dire que la royauté de Dieu est la royauté de tous les mondes. Elyonim, vetartonim. Dieu est un Dieu qui est très très grand et que sa royauté couvre tout. Ça veut dire, imaginez-vous ce monde, tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, tous les pays de ce monde-ci, tout l'univers, et les malachim, et le Gan Eden, etc. Et imagine-toi que Dieu, il couvre tout ça. Donc à quel point Dieu est très très grand, 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 grand. Ça veut dire autant, moi je connais, en général, qu'est-ce que je connais? Je connais ma maison, ma famille, mon entourage, etc. Là maintenant, on va prendre du recul. On va essayer d'imaginer à quel point, d'accord? À quel point, bonsoir. À quel point Dieu, d'accord, est très 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 grand. Et c'est pas Stam qu'il est grand. C'est pas Stam qu'il est grand. Tenez. C'est pas Stam qu'il est grand. Il est très très grand. Il couvre tout. Veillez ou même à l'école almi. Dieu emplit tous les mondes. Ve sauvev kolalmin. Et enveloppe tous les mondes. Vous savez quoi la différence entre emplir et envelopper? C'est expliqué dans la Kabbalah qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau dans lequel la Kadosh Baruch Hu, il pénètre le monde. Ça veut dire que c'est quand même un niveau dans lequel il descend très très bas. Mais il y a un autre niveau qui est tellement fort dans lequel Dieu ne peut même pas pénétrer le monde, juste il enveloppe le monde. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que ça veut dire. Imaginez par exemple que vous rentrez dans un cours. Il y a des cours que vous comprenez. Le cours que vous comprenez, c'est un cours qui vous a empli. Ça veut dire l'idée du cours est entrée en vous, elle vous a empli votre personne. Mais il y a des fois des cours qu'on ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre. Et pourtant on vient quand même. Pourquoi? Parce qu'on sent que le cours, il nous enveloppe. Ça veut dire, je sens que je suis pas encore au niveau de tout comprendre, mais je sens quand même que le cours m'enveloppe. Alors imaginez que par rapport à Dieu, on dit que Dieu, il entoure il emplit les mondes et il les enveloppe. Ça veut dire qu'il y a les deux. Ça veut dire que Dieu est très très grand. D'abord Dieu, il se trouve dans le monde entier, chez nous, chez les malachim, chez les anges, chez les neshamot, partout, partout, partout. Et en plus, Dieu il est encore plus grand que ça, parce qu'il y a un niveau dans lequel Dieu ne rentre même pas, il nous emplit même pas, il est au-delà de tout ça, il nous enveloppe. Donc ça, le but de cette imagination, de cette étape numéro 1, c'est de s'imaginer à quel point Dieu est grand, mais très très grand. D'accord? Pour l'instant, je pense pas à moi, je pense pas à ma maison, je pense pas à ma famille. J'essaye de prendre un maximum de recul possible. Ça, c'est l'étape numéro 1. Essaye d'imaginer comment Dieu est énorme. C'est pas compliqué, c'est tout le monde peut comprendre ça, même un enfant. Même un enfant, il peut comprendre que Dieu est grand, que Dieu est très très grand. D'accord. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 2. Ce Dieu qui est très très grand, qu'est-ce qu'il fait? Alors, au Kumoshe Katouf, comme il est écrit, je suis au milieu de la page 228. Allo et Hashamayim v'et Haaretz Animale. Dieu dit, n'est-ce pas que j'emplis le ciel et la terre? C'est-à-dire que Dieu est partout. Dieu, il couvre tout. Ça, c'était l'étape numéro 1. Maintenant, étape numéro 2. Umaniach Elyonim v'etartonim. Ce Dieu qui est très très grand. Imaginez-vous un très 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 grand roi. C'est pas Stam un roi. Pas Stam un président. C'est qui d'après vous la personne la plus importante que vous connaissez sur Terre? Imaginez la personne la plus importante. Mais la personne la plus importante que vous connaissez sur Terre, elle a un impact qui est limité. Elle a un impact peut-être sur une ville spécifique, sur un pays spécifique, sur un continent spécifique, sur une planète spécifique. Allez, trouvez moi une personne qui a un impact sur une planète. C'est pas possible. Mais là, imaginez que Dieu, d'accord, l'Avdil évidemment, c'est encore plus grand que tout ça. Ça veut dire que, imaginez la personne la plus inatteignable que vous pouvez connaître. Donc normalement, une personne comme ça, il te calcule pas. Tu ne calcules pas une personne comme ça. Une personne comme ça, il ne te regarde même pas. Qu'est-ce que tu veux pour lui? Je suis un microbe devant lui. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, donc il a un monde pour lui. Il a un monde entier. Il a un monde entier de malachim et de créatures qui font toute sa volonté. Et qu'est-ce qui fait ce Dieu? Écoutez bien. Étape numéro 2. Umaniach Elyonim Vetartonim. Ce Dieu, donc Dieu, laisse de côté les mondes et les êtres supérieurs et inférieurs. Ça veut dire Dieu, il met tout de côté. Et il dit, Gan Eden, ça m'intéresse pas. Bah, c'est un grand mot. Gan Eden, ça m'intéresse pas. Ça, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui m'intéresse? Ou me yached malchuto alamo Israël bichlal. Dieu dit, dans tout ce grand monde que j'ai créé, avec tous ces malachim, tout ce que j'ai créé, ce Gan Eden, etc., qu'est-ce qui m'intéresse? Zoom, c'est l'homme Israël. Maintenant, dans l'homme Israël, écoutez bien, Ve'alav bifrat, moi spécifiquement, ça veut dire qu'imaginez que sur tout ce grand monde que Dieu a créé, Dieu fait un zoom sur chacun de nous. Et qui dit, tu vois tout ce que j'ai créé, je mets tout de côté. Je suis intéressé par le Ham Israël, en particulier par toi. Je me dis, mais attends, c'est un grand mot ça, en particulier par toi. Bon, d'accord, le Ham Israël, d'accord, le Ham Israël, ça va, on est plusieurs millions quand même. Ben moi, qui je suis moi? Moi, je suis un petit juif, je suis rien du tout. Qui me dit que Dieu il fait un zoom sur moi? Au point qu'il dit, je mets tout de côté pour toi. Qui suis-je? Mais en fait, c'est Gmara. La Gmara dit clairement, qui chayav Adam Lomar, car un homme est obligé de dire, Bishvili Nivra Aolam. Le monde a été créé pour moi. Et c'est pas une forme d'égoïsme de dire ça. C'est la Gmara Sanhedrin, Mishnah Sanhedrin qui dit ça, qui dit que chaque homme a l'obligation de dire, a l'obligation, c'est une obligation, c'est pas un droit, d'accord, a l'obligation de dire, le monde a été créé pour moi. Là-bas, il y a un développement dans la Gmara pour expliquer que lorsqu'on sauve une âme juive, c'est comme si on sauvait le monde entier.
C'est pour les justes.
D'accord? Pour l'homme Israël. Et là-bas, la Gmara dit, chaque homme a l'obligation de dire, le monde a été créé pour moi. Très fort, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de dire que, à moi seul, je suffis d'avoir créé tout un monde que pour moi. Ça veut dire que maintenant, on est à 5777 ans d'histoire, avec des myriades de créatures qui ont été créées, d'accord, des êtres humains, tout ce que tu veux, et je suis en droit, et c'est pas seulement en droit, j'ai le devoir de dire que tout ça a été créé pour moi. Alors, c'est pas pour moi dans le sens parce que tout me revient. Au contraire. C'est dans le sens que Dieu compte sur moi. Hein, tu vas dire, attends, si on a bien suivi les étapes, quelle était la première étape du raisonnement? La première étape du raisonnement, c'est que Dieu est très 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 grand. Donc si j'ai bien réfléchi que Dieu est très très grand, et que je réfléchis que ce Dieu qui est très très grand et qui couvre tout, il met tout de côté pour aller chercher un microbe. Moi. Et c'est moi qui dois me dire, le monde est créé pour moi. J'ai dit, attends, mince, c'est un problème là. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé chez moi? Tu t'imagines? Ça veut dire, c'est pas comme tu crois, vous savez, des fois, c'est comme vous avez une grosse entreprise, très grosse entreprise. 30 000 employés. T'as un homme de ménage qui est là, qui fait le ménage. Et à un moment, il passe devant une saleté, il a pas envie de nettoyer cette saleté. Qu'est-ce qu'il a à faire? Qui va voir? Tu crois qu'il se dit, le patron, il vient, il fixe les caméras sur moi, et il me regarde, et il dit, monsieur l'homme de ménage, technicien de surface, je compte sur vous pour nettoyer cette saleté, vous allez changer la société, l'avenir de la société dépend de vous. C'est un homme de ménage. Et encore, je suis gentil quand je nous compare à un homme de ménage par rapport à Dieu. J'ai rien contre l'homme de ménage, c'est Shalom. C'est juste pour expliquer que par rapport au patron, l'homme de ménage, c'est un détail. Alors là, imaginez que par rapport à Dieu, Dieu, il te dit que de tout le monde que j'ai créé, d'accord, le Ham Israël, je mets tout de côté pour le Ham Israël, et dans le Ham Israël, je prends chacun séparément et je lui dis, tu es important pour moi. Tu comptes pour moi. Et le monde entier a été créé que pour toi. Ça veut dire que même si j'avais créé personne dans le monde entier, même si tous étaient des réchaïm, mais que toi qui es tzadik, j'aurais dit c'est bon, j'ai déjà gagné. Le monde valait le coup pour toi. Bishvili nivra olam. Alors évidemment, ça va dans les deux sens. Ça veut dire que si je me comporte bien, eh ben, je peux dire que le monde a été créé pour moi, mais si je me comporte mal, pour Dieu, Dieu considère ça comme un échec. C'est comme si c'était un échec absolu. Tu dis, mais ça va, il y a d'autres que dans la masse, il y a d'autres qui ont réussi. Oui, non, c'est pas la masse. Moi, je fais un zoom, et ce détail-là, qui était très important pour moi, il est pas bon. Donc là, quand tu réfléchis à ça, tu comprends, tu dis que, finalement, je suis très important pour Akadosh Baruch Hu. Et que je ne passe pas inaperçu pour Akadosh Baruch Hu. Voilà, ça c'est le but. Le but de cette réflexion que nous donne le Morazakane, qui est une réflexion encore une fois, et je l'ai essayé avec mes enfants. J'ai essayé de leur expliquer avec des mots, bien sûr, qui sont adaptés à leur niveau. Mais ces deux étapes là que je vous explique, il y en aura d'autres après. C'est très facile à expliquer même à un enfant. C'est simple. Expliquer à quel point Dieu est très grand, et que d'un autre côté, ce même Dieu qui est très grand, il fait un zoom sur chacun, et à chacun de nous, même un petit enfant, il lui dit, ta mitzvah est importante pour moi. Ah, enfin, il dit, ah bon, la mitzvah est importante pour Dieu. Là, alors tout de suite, c'est pas que t'as un sentiment de peur. C'est pas une peur dans le sens j'ai peur de prendre un guéhinnom sur la tête. Ça peut être ça aussi, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est que tu te sens valorisé et tu dis mais attends, mais j'ai peur de l'événement. C'est très important ce que tu me racontes. Ça veut dire que tu es en train de me dire que je suis très important. Il y a des caméras entières qui sont fixées sur moi. Imaginez une star qui est en train de marcher dans la rue. Il sort, il sait qu'il a 50 caméras sur la tête. Il sait qu'il fait une grimace. Le lendemain, dans tous les journaux, on montre cette grimace. Il fait un regard, c'est fini. Tout le monde le connaît. Mais là, imaginez que ça c'est des stars, les Avdil, c'est des bêtises. Là, imaginez que tu dis c'est Dieu, les Avdil. C'est Dieu et tous les malachim et tous les anges qui font tous un zoom parce que tous les anges ils savent ça. Tout le monde sait que eux, c'est pas qu'ils servent à rien, mais ils sont un ex. Et que la vraie raison pour laquelle ce monde a été créé, c'est pour qui? Pour le peuple juif. Donc quand ils me voient le matin, quand les anges en haut et les malachim et les neshamot en haut, ils me voient me lever. Il y a un homme très important pour Dieu qui vient de se lever. Très très important. Et il regarde, qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde. Il va à la synagogue. Ils sont contents. Ils disent, c'est bien. C'est une star. Et après, qu'est-ce qu'il voit? Chez la chaîne à rapport. Quand tu réfléchis à ça, tu t'imagines que tu comprends qu'on est très, très, très important. Mais encore une fois, le but, c'est pas Chas v'Shalom de nous amener un sentiment d'ego et d'orgueil. Au contraire. C'est de nous amener un sentiment de comprendre que chaque chose qu'on fait est très importante. Très importante pour la Kadosh Baruch Hu. On va continuer. Donc, Kichayav Adam Lomar, sur le bas de la page 228, un homme a l'obligation de dire Bishvili Nivra Aolam. Le monde a été créé pour moi. Vous savez d'où on apprend ça? On apprend ça d'Adam Harishon. Lorsque Dieu il a créé le monde, il y avait combien de personnes? Il y avait une personne. Et de cet homme, toutes les autres créatures sont venues. Donc ça veut dire que chacun de nous en vérité est un Adam en potentiel. Parce que de chacun de nous, le monde aurait pu commencer. Vraiment. Vous me suivez? Oui. Seulement c'est quoi la différence? C'est que moi, il y a un autre qui était là avant moi. Bon d'accord, mais il est mort. Il est Niftar. Donc potentiellement, imaginez maintenant que Dieu, Chas v'Shalom, il enlève tout le monde et dit voilà, maintenant le monde c'est toi. Est-ce qu'on aurait pu recommencer l'humanité? Je suis sûr qu'on peut.
Deux,
d'accord. Il y a une côte, il te sépare d'une côte.
Il faut qu'il n'y ait pas de miracle.
Hein. Eh bien, alors disons deux, c'est bon? Deux. Même un en vérité. Non, c'est intéressant parce que Dieu n'a pas créé tous les autres animaux, Dieu a créé toujours deux. C'est la question que pose la Gemara. Oui. Dis, comment ça se fait que tout le reste, Dieu a toujours créé double? Double. Sauf Adam. Voilà. Pourquoi Adam, dès le départ, il n'aurait pas pu pouvoir éviter les problèmes, dès le départ, créer Zahar ou Nekeva? Il y a des midrashim, mais des midrashim qui disent que l'homme, il a été créé au début avec une face homme et une face femme, etc. Mais bon, concrètement, c'est une créature qui a été créée. Mm-hmm. Pourquoi il a fait ça? Là-bas, la Gemara développe ça. Les commentaires aussi, je suis là-bas. Il dit, c'est pour te dire que chaque personne, il doit se dire, le monde a été créé pour moi. Il y a un aspect unique. Parce que si Dieu avait créé dès le départ l'homme avec Zahar et Nekeva, il n'y a plus l'aspect unique. On est deux. Bon, alors quand on est deux. Je suis pas unique. Je suis 0,5. Je suis pas 1. Mais là, Kadosh Baruch Hu, volontairement, il a créé le monde avec une personne. Et de cette personne, d'accord, à partir de cette personne, d'accord, il a tout créé le reste. Pour dire à chacun de nous, sache que potentiellement tu es Adam Harishon. Et que l'humanité peut démarrer à partir de toi. C'est énorme. On raconte qu'une fois, le Maguide de Mezerich, lorsqu'il était petit, il devait avoir 4-5 ans, sa maison a brûlé. Et il a vu sa mère en train de pleurer. Alors il a essayé je crois que son père n'était plus de ce monde, je sais pas. Bon. En tout cas, il a vu sa mère en train de pleurer. Alors il a dit à sa mère, maman, pourquoi tu pleures? T'inquiète pas, maman, c'est vrai que la maison a brûlé, mais bon, on va reprendre une nouvelle maison, on va racheter des meubles. T'inquiète pas, maman. Il essaie de consoler sa mère. Sa mère lui dit, mon fils, je pleure pas pour les meubles. Les meubles, c'est pas grave, on trouvera des autres, la maison, on trouvera une autre. Je pleure parce que dans la maison qui a brûlé, il y avait un acte qui montrait notre arbre généalogique qui remonte jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et cet acte était brûlé dans cet incendie. Et dans cet acte, on voyait comment on passait par des tzadikim illustres. Et la sortie des noms énormes, des tzadikim illustres qui remontaient à l'époque des Géonim, des maîtres de la Mishnah, de la Gemara, etc. Et il dit, j'ai de la peine, mon fils, qu'on a perdu cet acte généalogique. Vous savez ce qu'a répondu le Maguide de Mezerich à l'âge de 4 ou 5 ans? Il a dit, t'inquiète pas, maman. L'acte généalogique, Le Yirous, ça veut dire donc l'ascension, ça veut dire, enfin, pas l'ascension, ça veut dire que le, oui, c'est, l'acte généalogique d'importance commencera à partir de moi.
Elle a dit ça?
Oui, très fort.
À 5 ans.
C'est sa mère qui l'a raconté. Et ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Pas du tout, justement. Eh ben, tel que, eh ben justement, tel que la Gemara nous l'explique, elle dit pas du tout, c'est pas un ego. Parce que chacun de nous doit être conscient qu'il est unique au monde. Et que personne n'a jamais été créé comme lui, et que personne ne sera jamais créé comme lui. D'ailleurs, génétiquement, ça s'explique ça. Il n'y a pas deux personnes identiques sur toute l'humanité, c'est impossible.
Et à travers tous les âges.
Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Il n'y a pas deux personnes strictement identiques. Comment c'est possible? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait qu'il n'y a pas deux personnes strictement identiques? Et je parle à tous les niveaux. Ça veut dire même physiquement, il n'y a pas deux personnes strictement identiques. Physiquement, psychologiquement, etc. Pourquoi? Eh bien, la Gemara a dit, c'est pour montrer que chacun est unique.
Mais même dans la nature.
Et que chacun de nous a une approche unique dans le monde que personne d'autre peut avoir. D'ailleurs, au passage, vous savez, c'est la raison pour laquelle tous les jours dans la tefila qu'on prend aussi tout à l'heure, on dit « Veten chelkenu betoratera ». On demande à Dieu de nous donner notre part, à chacun de nous, dans sa Torah. Alors le commentaire pose la question, il dit, ça veut dire quoi de nous donner notre part? Est-ce que ça veut dire que j'ai une part dans la Torah? C'est quoi cette part que j'ai dans la Torah? J'ai pas de part. C'est un droit que j'ai étudié la Torah, c'est un devoir que j'ai étudié la Torah, c'est un mérite que j'ai étudié la Torah, mais c'est pas une part. Parce que quand on dit qu'il y a une part, quand vous prenez un héritage et vous dites qu'il y a une part, c'est-à-dire que la part qui m'appartient n'est pas ta part, vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est quoi le terme part? Donne-moi ta part dans la Torah, c'est pas une part. C'est un accès à la Torah, c'est pas une part. Les commentaires disent, pourquoi on appelle Veten Chelkenu? Parce que chacun de nous, peu importe son niveau en Torah, qu'il soit fort en Torah, qu'il soit faible en Torah, peu importe son niveau, il a une approche unique qu'il n'y a que lui qui peut avoir par rapport au divrei Torah. Et cette approche est sa part dans la Torah. Et personne au monde ne peut avoir une approche comme ça. Ni Rabbi Shimon Bar Yochai, ni Moshe Rabbeinu, personne. L'approche singulière que chacun de nous a dans la Torah, personne ne peut l'avoir.
S'il ne développe pas, il a perdu.
Il faudra un autre Gilgul, il faudra revenir.
Mais elles sont cumulatives. Hein? Elles sont cumulatives.
Chacun sa part.
Non, mais
c'est comme un gâteau. Prenez un gâteau. Et...
Non, mais je veux dire, les interprétations qu'on va avoir, chacun va amener sa petite pièce, sa petite pierre, je veux dire, pour faire en sorte que l'édifice soit de plus en plus.
Alors là, c'est plus qu'une pierre. C'est pas seulement une pierre. C'est beaucoup plus que ça.
C'est une façon de parler.
Non, j'ai compris ce que vous voulez dire. C'est pas seulement une pierre. C'est que chacun de nous a une part dans la Torah. C'est-à-dire, chacun de nous s'approprie la Torah. C'est pas dans le sens que j'amène une pièce. C'est que chacun de nous s'approprie une partie de la Torah qu'il n'y a que lui qui peut avoir.
Partie intégrante.
Intégrante. Et que personne d'autre au monde peut avoir. Il y a une approche unique qu'il n'y a que moi qui peux avoir. Et chacun de nous a un regard unique sur la Torah. Vetora Terra. Veten Chelkenu Vetora Terra.
Et chacun est respecté.
Seulement pourquoi on demande à Dieu tous les jours dans la tefila? Parce que c'est pas facile de trouver cette part. Il faut se fatiguer pour trouver cette approche singulière dans la Torah. Mais chacun de nous a une approche singulière dans la Torah. C'est ça le Bishvili Nivra Olam. Lorsqu'on dit que chacun de Dieu, le monde a été créé pour moi, c'est encore une fois une façon de dire que c'est pas un ego, c'est que le monde a été créé pour moi dans le sens que j'ai une approche unique que personne d'autre a. Donc là, vous comprenez que quand on réfléchit comme ça, automatiquement, on se sent valorisé, et surtout, on comprend qu'on est très important pour Akadosh Baruch Hu. On comprend qu'on n'est pas juste un pion, on comprend qu'on n'est pas juste un microbe qui est là et qu'on est noyé dans la masse. On peut pas être noyé dans la masse. Donc là, je commence à me dire, attends, on me regarde d'en haut. Mais j'ai pas fini le raisonnement.
Alors, est-ce que chacun amène une part de dévoilement de la Torah, des secrets de la Torah, comme ça, puisque chacun s'approprie pleinement
une pièce unique.
Sa part dans la Torah, la manière de l'interpréter.
Évidemment, bien sûr. Évidemment. Chacun de nous a une approche unique de la Torah.
Et ça peut venir à n'importe quel moment.
Après, il faut travailler pour la trouver.
Non, c'est clair.
Vous vous rappelez pas l'exemple que... L'exemple qu'avait donné le rabbi à un jeune bar mitzvah. Je vous l'ai raconté, ça fait deux mois. L'exemple qu'avait donné le rabbi à un jeune bar mitzvah.
Pour la peinture.
Voilà, exactement. Vous vous rappelez?
Il
avait expliqué la différence qu'il y a entre une photo et une peinture.
Ah oui, c'est ça.
Ah, c'est ça. C'est que la photo, tu peux la reproduire à l'infini, c'est une photo. Mais la peinture,
tu
prends le même artiste, tu lui dis, fais une première peinture, et tu lui demandes après, refais la même peinture, même s'il est très doué, ça ne sera jamais la même peinture. C'est pas possible, parce que, exactement, sinon tu copies, donc c'est plus de l'art. Le vrai artiste, il s'exprime, et il ne peut pas s'exprimer de la même façon. C'est un art, mais c'est autre chose, je parle d'un vrai artiste qui s'exprime. Comprends?
Après,
reproduire une œuvre, c'est bien. Mais créer une œuvre, c'est autre chose.
Ça vient.
Ok. Alors, reprenons notre texte. Donc là, vous voyez, tout de suite, on comprend. Hein. Déjà, je vous disais tout à l'heure, parce que je l'ai essayé avec mes enfants. Déjà, expliquer ça à quelqu'un. S'expliquer à soi-même, ces deux choses-là. Que d'abord, Dieu est très 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 grand, ça tout le monde peut s'imaginer. Et que ce Dieu qui est très très grand, met tout de côté. Pourtant, il en a en haut, il a ce qu'il veut, il a accès à ce qu'il veut. Il a accès au Malachim, au Gan Eden, à ce qu'il veut. Et il met tout de côté, et il dit, qu'est-ce qui m'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est l'âme Israël. Et dans l'âme Israël, Bishvili, c'est toi. Bishvilra, c'est toi. Je dis, ah bon, c'est moi. Donc, t'as un sacré déjeuner en gros. Donc là, tout de suite, je me sens quelqu'un d'important, mais dans le sens que je me sens que j'ai une grande responsabilité sur mon dos, sur mes épaules.
Donc, comme tu dis, créer une œuvre, quand tes parents, je reviens là-dessus toujours, se mettent à s'accoupler pour faire un enfant, ils créent quelque chose d'unique.
Bien sûr.
Donc, ils sont les deux associés.
Ah oui, c'est unique. Chaque pièce qui sort dans le monde est une pièce unique.
C'est en deux ce que vous dites, parce que c'est vrai que l'homme est grand, chacun de nous compte énormément pour la carte de Jbourg.
Oui.
Mais il ne faut pas oublier de dire qu'on compte également parce qu'on a notre libre arbitre de faire mal aussi.
Bien sûr.
Vous me suivez? Parce que si on n'avait que le bien, ce ne serait pas aussi grand pour nous. Vous me suivez?
J'ai compris, oui.
Voilà. C'est grand parce qu'on est grand parce qu'on a le libre arbitre de faire mal. C'est pour ça qu'on est grand.
Oui, j'ai compris. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on avait le libre arbitre, concrètement, si on devait nous comparer par rapport à Dieu, moi je suis tout petit, je suis un microbe par rapport à Dieu. Même un microbe c'est trop grand.
Ça, c'est autre chose.
Donc c'est ça le problème. Le problème c'est que de me dire qu'un Dieu tellement grand.
On a tous les jours les moyens de fauter et on le fait.
Oui,
pas. C'est vrai que devant un chef.
Vous avez raison. Mais ce que je veux dire c'est que s'imaginer qu'un Dieu tellement grand s'intéresse à un être tellement petit, je me dis mais qu'est-ce qu'il m'a trouvé?
C'est pour ça.
Qu'est-ce qu'il m'a trouvé? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Si encore tu me dis qu'il s'intéresse aux malachim, etc., aux anges, je dis bon, c'est quand même, ça va. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé chez moi?
Quand on voit qu'on va à nos occupations du dimanche au vendredi, et que le vendredi, Baruch HaShem, on rentre dans Shabbat, c'est un libre arbitre qui est très puissant.
Qui demande des efforts. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
Tout comme ça, quand on mange, on fait une bracha, dans tout.
Mais il faut comprendre surtout qu'on est très important pour Dieu. Chacun de nous est très important pour un cadre de jour. Mamash, très important pour un cadre de jour. Alors on continue un peu dans les mots. Donc, Umeyached Malchuto, je reprends dans les mots. Je reprends le mot, la page 228, en bas de la page. Umeyached Malchuto Alamo Israël Bichlal. Ce Dieu qui est très très grand, qui emplit tous les mondes, qui enveloppe tous les mondes, ce Dieu qui est grand, il laisse de côté les mondes et les êtres supérieurs et inférieurs. Et il va dédier sa royauté spécifiquement à l'Amo Israël Bichlal, sur son peuple Israël en général, Ve'alav Bifrat, et sur moi spécifiquement, qui Rayav Adam Lomar Bishvili Nivra Aolam, car un homme doit dire le monde est écrit pour moi. Ça veut dire que Dieu, il dit de toutes les créatures que j'ai, je veux régner sur toi spécifiquement.
Roi d'Israël?
Non, Dieu.
Non, mais
Dieu. Il met de côté tout ce qu'il y a, toutes ces créatures, et il prend Monsieur Akos, d'accord? Moi, j'en peux parler de moi, mais je parle de vous maintenant. D'accord? Voilà. Et il lui dit, je veux régner sur toi, je veux être ton roi. Vous imaginez? Mais attendez. Vous dites, mais attends, mais qui suis-je, moi? Normalement, comment ça fonctionne? Un roi, plus il est grand, et moins il a de contact avec l'individu. Plus il est grand et plus il a un contact avec des masses. Il n'y a pas de proximité. Et là, imaginez ce roi qui est énorme, qui aurait pu exercer une pression sur des milliards de personnes, de milliards, de milliards, de milliards. Il met tout de côté et il prend un individu dans toute la foule et il dit, c'est sur toi que je règne.
C'est vrai, c'est pas
Monsieur
vrai, parce qu'il veut régner sur... Il dit ça,
je veux dans mon équipe.
Non, c'est pas dans mon équipe. Tu es mon équipe, c'est toi mon équipe. Je veux que toi.
Oui,
il dit ce même discours à chaque individu parce que chaque individu est unique.
Voilà.
Chaque individu, d'ailleurs, au passage, chaque individu est un monde. C'est pour ça qu'on a un microcosme, macrocosme, etc. Chacun de nous, notre composition, qu'on ressemble beaucoup à la composition du monde parce que chacun de nous est un monde. Bishvili Nivra Olam, la Palme Farsi Midi, ça veut dire que chacun de nous est un Olam Katan, un petit monde. Donc chacun de nous est un monde. Ça veut dire Dieu, il a créé plein de petits mondes en vérité. Et des mondes uniques. Alors évidemment, quand tu réfléchis à ça, vient la troisième étape. Quand tu comprends que Dieu est très grand, et que ce Dieu qui est très grand, il a décidé de dédier sa royauté sur une personne spécifique, Monsieur Akos, d'accord? Alors, Vehu Gamou, Monsieur Akos aussi, non, là, je vais parler moi maintenant. Mais Kamel Alav Malchuto, je passe à la page 129, il va accepter aussi, donc cet individu qui comprend que Dieu a dédié sa souveraineté que sur lui, alors lui aussi, il va accepter la souveraineté de Dieu, la royauté de Dieu, liot melech alav, que Dieu sera mon roi, ou leovdo, que je vais le servir, vela asod retsono, et que je vais faire sa volonté, bechol mine avodat aved, dans toutes les formes de travaux serviles. Ça veut dire comme ça, c'est très puissant ce qu'il dit ici. Là, les travaux serviles, qu'on pourrait appeler serviles, des travaux qui sont difficiles, parce que c'est vrai, des fois, humilité, c'est pas difficile. Je le perçois plus comme un travail difficile. Imaginez juste un tzaddik. Voilà, tu sais quoi? Vous savez quoi? Je pour vous donner un exemple. On va imaginer qu'on va juste voir un tzaddik. Un tzaddik, il y a des milliers de personnes dans la salle. Et le tzaddik, il rentre dans la salle, dans la foule, et il vient vous voir. Monsieur Akos, c'est toi mon chassid. C'est pour toi que je suis venu parler. Mais tout ce qu'il te demande, tu fais. Même s'il te demande d'aller sauter, d'aller faire, d'aller te lever à 2h du matin ou à 3h du matin, on peut pas dormir de la nuit, de je sais pas. C'est un kiff pour toi de le faire. Tu imagines? J'ai été sélectionné par le tzaddik. Avec ça, c'est qu'un tzaddik. Parce qu'un tzaddik, ça reste une créature humaine. Là, c'est Dieu que je parle. Imaginez maintenant que c'est Dieu qui parle et Dieu utilise, je mets tout de côté pour toi. Là, je vois plus les mitzvot dans le sens une galère, j'en ai marre, ça m'intéresse pas. J'ai la crainte de Dieu, parce qu'évidemment, quand le roi il t'a pris, il t'a sélectionné personnellement, tu as la crainte du roi, tu te sens tout petit. Mais c'est pas une crainte dans le sens, j'ai peur, il va me frapper. Au contraire. C'est une crainte, tu as conscience de l'importance de l'événement, tu dis, je suis important pour Dieu. J'ai intérêt à assurer. Parce qu'il me regarde. Dieu, il me regarde, il me dit, attention, je compte sur toi. Il faut que tu travailles. Liot melech alav. C'est un plaisir.
C'est un honneur. C'est un plaisir,
c'est exactement, c'est pratiquement une crainte qui vient par plaisir. Et en fait, il y a un autre endroit dans lequel Edmond Razakai donne un autre exemple. Il dit, imaginez, dans une pièce, vous avez deux hommes. Et là, encore une fois, parce que j'essaye de trouver la comparaison, vous savez, on peut pas trouver de comparaison entre Dieu et un homme. Donc, pour donner des exemples, là, je vous ai comparé un tzaddik avec un homme, classique. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Imaginez, dans une pièce, vous avez deux hommes. Deux hommes. Un homme ultra intelligent, un génie. Et un homme ultra simple. D'accord? Mais ultra simple, vraiment. Et la situation fait qu'ils n'ont pas de centre d'intérêt commun. Et pas de connexion. Hein, il va parler de Torah, etc. L'autre, il va parler de football. Bon, il n'y a pas de... Excusez-moi, les footballeurs.
Mais ce sont des hommes.
Non, sérieusement, hein?
Les deux, c'est des hommes.
Oui, les deux, c'est des hommes. Attendez. Hein. Non, mais j'ai pas, des secondes. Il faut me laisser finir l'exemple, s'il vous plaît. Après, je sais que vous le prenez question, vous m'avez dit. Je vais faire une pause. Alors, imaginez ces deux hommes dans la pièce. Et donc, la vérité, c'est que le bonhomme qui est très intelligent, il aimerait vraiment donner sa place au bonhomme qui est ultra simple, qui est bête, hein, disons-le clairement. Mais il n'arrive pas, parce qu'il dit, je peux pas parler avec lui, j'ai pas de quoi parler avec lui. Il n'y a pas de terrain d'entente. Je lui dis un mot, il comprend pas. Donc ils n'ont pas de terrain d'entente. Et ça cause beaucoup de peine à ce monsieur qui est simple, parce qu'il aimerait vraiment se sentir valorisé par ce monsieur intelligent. Il aimerait vraiment qu'il, je sais pas, il dit quelque chose, etc. Bon, et à un moment, alors on va donner un exemple. À un moment, c'est pas l'exemple qu'il donne, mais c'est juste pour faciliter. À un moment, le monsieur qui est très intelligent, le génie, il veut chercher un livre qui est à la 15e étagère en haut. Mais il a peur de tomber parce qu'il n'est pas très sportif, etc. Alors il va aller voir celui qui est simplé là, mais qui est sportif peut-être, et qui va lui dire, écoute, est-ce que s'il te plaît tu peux prendre l'échelle et monter me chercher le livre.
Il va courir.
Il va courir. Il va kiffer. Pourquoi il va kiffer? Il va dire, ah, je vaux quelque chose. Maintenant, à la limite, il va prendre des risques quand il va faire ça, il va monter sur une échelle, il va se galérer, parce que je sais même pas si c'est dans le nom du livre, etc. Et il va ramener un livre, tu vas se moquer de lui, il va dire, mais non, c'est pas t'as pris le tome 4, alors c'est le tome 2, enfin bon, il va le déchirer. Mais c'est pas grave, ça te dérange pas. L'importance, c'est qu'il y a eu une communication. Je suis important. Et à la limite, même si l'autre, il aurait dit une tâche, mais vraiment minime. Par exemple, le génie, il aurait dit, écoute, j'ai soif, est-ce que tu peux s'il te plaît m'acheter une canette de coca? L'autre, il court. Il dit, je vous la paye. C'est un kiff pour moi de vous l'offrir. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti valorisé. Et donc là, on comprend que même une tâche qui peut être une tâche galère, lorsque je me sens valorisé par cette tâche, je la fais avec plaisir. Alors imaginez maintenant si à la place du génie et de l'imbécile, je mets Dieu
et l'homme.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu crois, Dieu, il a besoin de ta mitzvah? Quand tu dis, ah, vraiment, je t'ai rendu service, j'ai mis les tefillines à Dieu, tu vois, je t'ai rendu service. Tu crois vraiment que Dieu ne va pas se débrouiller sans toi? Dieu, il veut créer de la communication avec nous. Il vient te voir, il dit, monsieur Akos, j'ai besoin de tes tefillines. Mets les tefillines, je t'en prie. Mais tu dis, mais attends, tu t'imagines? Mais je me sens valorisé quand il me fait ça. Je lui dis, mais attends, j'étais un microbe, moi. Qu'est-ce qui vient de toutes les créatures qu'il a? Cette filine, je sais pas, moi, il aurait pu avoir tout, n'importe qui le fait, il va chercher un homme, et il va lui dire, je veux que toi tu mettes cette filine. Pourtant, je suis tellement petit, qu'est-ce qu'il va me chercher? Et ça, c'est un exemple pour nous montrer, que, à ce moment-là, et ça, c'est l'étape numéro 3, l'acceptation de la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu n'est plus une corvée, n'est plus une galère. C'est presque une simra. Je suis content. Mais il y a quand même la crainte. Attention. Il y a un amour, mais il y a quand même une crainte. Parce que je sens que je suis petit devant le roi. Je sens que le roi, je veux dire, c'est comme si t'étais devant un tzaddik tout seul. Calvachomer devant Dieu.
C'est de l'admiration.
L'admiration. Mais c'est, on part presque dans l'admiration révérentielle. Ce qu'il dit le Morazakem. Donc là, on est à l'étape numéro 3. Donc, étape numéro 1, réfléchir à quel point Dieu est grand, le plus grand possible. Essayez de fermer vos yeux et de vous imaginer comment Dieu est le plus grand possible. Étape numéro 2, de réfléchir comment ce Dieu immense, géant, tout ce que vous voulez, il met tout de côté pour prendre moi qui est un microbe, et que je suis important pour lui, et que le monde a été créé pour moi. Donc, automatiquement, étape numéro 3, c'est dire, mais si Dieu, il m'a sélectionné, tout ce qu'il me demande, je ferai. Tout de suite! Mais on n'a pas dans la question, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Je me pose même pas la question. C'est évident que je vais le faire. J'ai automatiquement une révérence, un respect devant un Kadosh Baruch Hu, je fais ce que je dois faire. C'est-à-dire le fait même que je comprends que je suis important devant un Kadosh Baruch Hu, mes mitzvot et mes avérot prennent une autre tournure. Et ça, je peux vous dire que ça peut nous sauver de beaucoup d'avérot, que j'en dis. C'est-à-dire que la prochaine fois que le tsar, il vous met une avéra dans la tête, tu vois, tu lui dis, hey, j'ai 100 caméras là qui sont en train de me regarder là. Tout ce que je fais, c'est filmé. C'est la crainte. Mais attention, pas parce que c'est comme la crainte de la star, tu vois. Il sort dehors, il a la crainte de faire un faux pas. Mais c'est pas une crainte négative. C'est une crainte parce qu'il est important. Là, imaginez, c'est pas 100, c'est les milliards. Tous les anges, tout le monde regarde. Ils regardent. Ah.
Snipe.
Non, pas snipe. Ils regardent. Ils regardent qu'est-ce que je fais. Parce qu'ils savent, ils savent que Dieu, il compte sur moi. Ouais. Ils savent que j'ai compte sur moi.
Mais la question c'est, est-ce qu'on déjà on a été contacté dans notre appareil? Est-ce qu'on est souvent contacté par rapport à un Dieu?
Quoi?
C'est-à-dire, est-ce qu'on a eu cet effet?
À chaque seconde.
D'accord.
Chaque seconde, Dieu met tout de côté pour chacun de nous. Parce que si on servait à rien, on ne serait pas là. Vous comprenez? Si je ne sers à rien, je ne serais pas là. Si je suis là, c'est que Dieu il dit, tu as un intérêt, tu sers à quelque chose. Or, par définition, l'homme... Il sert à quoi? Il sert à être lui-même.
Donc une bonne action. Une bonne
à être lui-même et donc à être un bon monde. Parce que chacun de nous est un monde. Donc c'est une approche qui est complètement différente de ce qu'on pourrait penser ça. D'accord. On va avancer un petit peu. Il y avait une question, Joseph.
Non, mais ça va.
Je peux te demander de l'eau, s'il te plaît?
Ah,
parce qu'il y a la crainte là qui tombe, ça donne chaud. Joseph, vous avez oublié la question?
Oui. Non.
Je vous ai pas fait peur, j'espère.
Non, pas du tout.
Désolé.
C'est que, autrement dit, Ce qu'on reçoit en héritage quand ce monde se crée, ce petit monde que nous sommes se crée, c'est Dieu qui nous crée en réalité.
Oui. Alors,
ça veut dire qu'on est tous nés avec les mêmes facultés. Tous nos mondes sont nés avec les mêmes facultés.
Ça veut dire quoi les mêmes facultés?
De culture et de connaissance.
Ah non, on est différent. Non.
Ma pensée, c'est que on est tous nés avec le même capital de culture ou de possibilité de s'avancer.
Non.
Maintenant, très souvent.
Non, c'est faux. Je vous reprends dessus là.
On pourrait.
Regardez. On va pas aller. Le monde a été créé. Qui avait en premier? C'était qui les premiers?
Adam
et Chava. Est-ce qu'ils étaient les mêmes?
Non.
Pas même caractère, pas même nature, rien du tout. Ils ont eu deux enfants, Caïn et Abel. Est-ce qu'ils étaient les mêmes?
Non.
Ils n'étaient pas les mêmes. Vous voulez que je continue?
Non.
Il n'y a pas un par la suite qui était le même.
Pourtant,
le capital, il démarre tout de suite.
Non, c'est pas comme on met en diagramme et qui vont être pareil. C'est la faculté de penser.
Non, mais justement.
Ce travail, justement, de penser, de travailler le cerveau.
La réponse, d'après la Torah, génétiquement, je ne connais pas ça. Il nous dira Jacques. Mais d'après la Torah, je peux vous dire que c'est faux.
T'as malheureusement des maladies à la naissance avec des urgences mentales, donc là c'est...
Oui, non mais, d'accord, mais dans des cas, dans des cas de maladies.
Mais
au niveau de la personne, il n'y a pas une personne qui est la même que l'autre, même à la naissance. Même dans le ventre de sa mère. Une mère, elle peut avoir 10 enfants, elle vous dira, il n'y a pas un qui était le même que l'autre. Pas un. Pas possible. Il n'y a pas eu un enfant, un embryon qui était le même que l'autre depuis la création du monde.
D'accord. tout le monde
est chacun est différent.
On ne vend pas les t-shirts des petits bateaux. Hein.
Naturellement.
Donc tu es exceptionnel.
Non, mais ça s'apprend.
Ouais, voilà,
non, mais ça s'apprend techniquement. C'est une technique, mais ça s'apprend. Mais et en plus, c'est pas.
Non, mais déjà, moi, ce que je ressens déjà quand j'étudie cette Gemara, Shrei Sanhedrin, qui nous parle de ça, que chacun de nous est unique, je comprends que c'est pas seulement que bon, il y a une masse d'êtres humains qui habitent sur Terre, et que bon, il y a une petite nuance entre les uns et les autres. Là, on comprend que c'est pas juste une masse d'êtres humains qui existe. C'est des milliards de mondes qui existent.
Ah oui, exactement.
C'est-à-dire que c'est des mondes différents. Et chaque personne qui est passée dans ce monde, c'est une histoire qui est passée par ce monde.
Exactement, c'est des histoires.
Et c'est une histoire qui est unique, qui n'est pas reproductible. Impossible de reproduire. Ok. Maintenant, la quatrième étape.
Ah
oui. C'est quoi la quatrième étape? Ah oui, pour l'instant, on parle des Juifs. Veiné Hachem Nitzavalav. Maintenant, la quatrième étape. Une fois que j'ai compris que Dieu est très grand, que moi je suis tout petit et que Dieu a mis tout de côté pour moi, et que, donc là j'ai déjà fait les deux premières étapes, et troisième étape, que j'accepte automatiquement la souveraineté de Dieu. Maintenant, ce qu'il faut que je sache, c'est que Veiné Hachem Nitzavalav, et ça pour ceux qui connaissent, pour ceux qui étaient au Gan Israël, ils se rappellent certainement que c'est un des 12 versets qu'on chantait. Voilà. Veiné Hachem Nitzavalav. Dieu lui-même, ça c'est un verset qui est écrit dans Vayetse, Dieu lui-même, Nitzav Alav se tient au-dessus de lui, au-dessus de chacun de nous. Umlo kol haaretz kevodo. Et le monde entier est plein de la gloire de Dieu. Umabit Alav. Et Dieu regarde, me regarde. C'est pas seulement regarde, il m'observe. C'est-à-dire maintenant, on te dit attention. Ne crois pas que tout ce que je te dis, c'est que pour te faire kiffer, de dire voilà, t'es unique, t'es le meilleur, etc. Ça veut dire, on dit en chassidout que chaque mérite implique une responsabilité. Par exemple. Vous avez être Cohen, c'est un mérite d'être Cohen, c'est un mérite qui donne accès à plusieurs privilèges. Mais chaque privilège a forcément, c'est pas un revers, c'est forcément le prix à payer, c'est la contrainte, c'est qu'il y a des responsabilités. Et tous les privilèges dans le monde sont associés à des contraintes. Des contraintes, à savoir, en l'occurrence, pas forcément des contraintes, mais des responsabilités. Alors, là, le revers de la médaille, on te dit que Dieu, il te dit, j'ai sélectionné de tout le monde, j'ai mis que toi, etc. Bien sûr que je kiffe le faire. Mais d'un autre côté, sache que si Dieu a sélectionné, m'a sélectionné parmi toutes les créatures, ça veut dire que maintenant que Dieu me regarde. Il se tient sur moi, comme une caméra. Vous savez, à l'époque, il parlait de Big Brother. Ouais. Bon, à l'époque, c'était un rêve. Maintenant, on sait que c'est plus un rêve, c'est une réalité. Mais imaginez, voilà. Maintenant, il te dit, Dieu, lave-t-il maintenant, Dieu,
c'est la date.
Il te regarde. Nitzav, c'est pas Nitzav, pas seulement qu'il te regarde. Il se tient sur toi, stationnaire comme ça. Et imaginez, vous marchez dehors, vous avez un hélico sur vous, tu vois. Là, comme ça, il te lâche pas. T'avances, il avance. Bon. Non, c'est plus que ça. Maintenant, Dieu, il est partout. Tu peux pas, c'est-à-dire, tu peux pas rentrer dans un tunnel ou rentrer quelque part. Il est partout.
Pas te cacher.
Ce Dieu que t'as sélectionné, il te lâche pas. Ou m'habite à la veille, il t'observe. C'est pas qu'il reste en haut, il dit bon, on regarde en haut. Il t'observe constamment. Et tu vas dire bon, ça va, il me regarde. Qu'est-ce qu'il me regarde? Il regarde mes yeux. Il regarde ma bouche. Il regarde mes mains. Il regarde, etc. Non, attention. Ils sont de ton cœur. Ce Dieu qui t'a sélectionné, ou vos reines Kélayot Valev, ils sondent les reins qui sont la source de conseils qu'on a, et le cœur, pour voir Im Ovdo Karaoui, si je le sers comme il faut. C'est-à-dire, ce Dieu qui m'a sélectionné, c'est même pas du contrôle. C'est qu'il est là, il te regarde, il t'observe. Juste, il t'observe. Il t'observe et il voit tout. Il peut pas lui échapper. Alors, je vais reprendre l'exemple avec Tzadikim, parce qu'on s'approche de l'Aïloula du Rabbi qui est la semaine prochaine. D'accord? Et un Rabbi, c'est un exemple que nous, on a connu en tant qu'être humain, pour essayer de comprendre ce que c'est la Kdusha. Après, bien sûr, un Kadosh Baruch Hu, c'est beaucoup, beaucoup plus haut, mais c'est un exemple qui est un peu à notre portée pour comprendre. Beaucoup de gens, lorsqu'ils allaient voir le Rabbi, et pas que le Rabbi, d'ailleurs beaucoup de Tzadikim, ils disaient que un sentiment qu'ils ont, c'est quoi le sentiment? C'est des gens qui vont très très loin. Hein. Ils ont le sentiment que dès qu'ils passent devant un Tzadik, que le Tzadik,
Il a scanné,
il voit ce qu'il y a à l'intérieur.
Ouais.
Et c'est très dur comme sentiment, parce que tu sens que, vous savez, on a une carapace. C'est-à-dire, il y a ce que je monte et ce que je suis. C'est pas la même chose. D'accord? Bien sûr, on espère que c'est la même chose, mais il y a des nuances, c'est pas la même chose. Et alors, quand tu passes devant un tzadik, tu sens que devant le tzadik, il n'y a pas de carapace. Il voit ce que tu es à l'intérieur. Et tu peux pas lui cacher. Et c'est pour ça que devant un tzadik, combien de gens on a vu devant un tzadik qui craque tout de suite? Il faut une grande force de caractère pour tenir devant ça. Tu peux pas tenir. Tu sais qu'il te sonde, tu sais qu'il te regarde, qu'il voit dedans. Et ça, c'est un être humain. C'est un tzadik qui n'est qu'un être humain. Mais que comme il s'est travaillé, la kdusha qu'il a en lui fait qu'il arrive à sonder. Maintenant, imaginez si je parle d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que quelqu'un peut se cacher d'Akadosh Baruch Hu? C'est impossible. Ça veut dire que Dieu, il regarde les recoins les plus cachés de mon cœur. Les recoins que même moi, je ne sais pas si je connais. Même moi, il y a des recoins que même moi, je ne sais pas si je connais dans mon cœur. D'accord ? Et Dieu, il voit tout. Mais attention, c'est pas Dieu, il voit tout dans le sens où là, il a dit sniper. Il attend et dès que moindre écart, il tire. Non, c'est pas qu'il regarde pour te tirer dessus. C'est qu'il regarde. Comme tu es important pour lui, il regarde. Comme un père regardait son fils. Maintenant, attention, c'est pas qu'il te regarde et qu'il attend pour tirer. Et ça veut pas dire qu'il va tirer.
Il a pas.
D'accord ? Il veut pas tirer. Il a pas envie de te punir. Mais t'es tellement important qu'il peut pas arrêter ce que tu fais. Chaque détail que tu fais est important pour lui. Ça, des fois, tu veux dire, bon, qu'est-ce que ça change pour Dieu si je mets les tefilines ce matin ou pas? Tellement de millions de juifs qui mettent les tefilines et tellement de millions qui en mettent pas. Qu'est-ce que ça change si je veux mettre moi ou je veux pas mettre? Mais là, quand on te dit ça, on te dit, attends, tu es important pour Dieu. Dieu a créé le monde que pour toi. Et Dieu, il te regarde, il est en train de te voir, est-ce que tu as mis les tefilines aujourd'hui? Ça fait peur. Tu dis, attends, j'ai peur tout de suite. Et surtout que tu peux pas le carotter, tu peux lui dire, non, mais tu comprends, j'étais fatigué, je voulais, etc., etc. Tu peux pas. Ou Bochen Klayot Balev. Dieu, il sonde, d'accord, les reins et le cœur. Les reins, c'est encore plus profond que le cœur. Les reins, ça veut dire c'est ce qu'il y a de plus profond dans la personne. Le cœur, c'est quand ça sort. Et Dieu, tu peux rien lui cacher. Alors, quand on réfléchit à ça, Valken, c'est pour cela que je tourne la page 230. Tsarich la Amod le Fanav, et ça, c'est l'étape numéro 4, quand tu réfléchis à ça. Que Dieu est présent sur toi et qu'il te regarde et qu'il ne te lâche pas. Tsarich la Amod le Fanav. Je comprends que factuellement et logiquement, je dois me tenir devant Dieu, be'ema ou be'ira, avec amour et crainte, qui est omed lifne ameler, comme si je me tenais devant un roi. Ça veut dire comme ça. Tout à l'heure, on va faire une amida. Demain matin, on va faire une amida. Ok? On te dit que quand tu fais l'amida, tu dois t'imaginer que tu es devant un roi. Moi, je sais pas ce que c'est un roi, moi. Moi, j'ai pas vu qu'avec des rois, je sais pas ce que c'est un roi. Encore à l'époque, c'est peut-être ce que c'est un roi. Et même si tu vas me dire que je suis dans un pays dans lequel il y a un roi. Bon. Par exemple, au Maroc. D'accord? Et encore, c'est pas les vrais rois comme à l'époque. Mais disons, imaginons que je suis dans un pays dans lequel il y a une dictature et il y a un roi. D'accord, il y a un roi. Mais comment tu veux que j'imagine que quand je fais ma mida, je suis devant un roi? Je suis pas devant un roi, je suis devant un livre. Alors, qu'est-ce que tu me racontes, je suis devant un roi? Comprenez? Comment tu imagines ça? Comment tu veux? Parce que c'est ça, on dit que quand je fais la mida, je dois avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Comme si j'étais devant un roi. Comment tu veux que je sois devant un roi? Je suis pas devant un roi. Dis-moi si tu veux d'avoir des kavanot, je vais essayer de faire ce que tu me dis. Mais je vais pas me sentir que je suis devant un roi, je suis pas devant un roi. Je suis devant un livre. Comment tu veux que je sente ça? Eh ben, la kavana qu'on a expliquée aujourd'hui, c'est une kavana qui contribue et qui nous aide à arriver à ça. Quand tu réfléchis à quel point Dieu est très très grand, et que moi je suis tout petit, et que Dieu m'a sélectionné parmi tout le monde, il a mis tout de côté, et qu'automatiquement je fais les mitzvot avec la crainte d'Akadosh Baruch Hu, et que Dieu il me sonde, il me regarde, pour voir si je fais les choses comme il faut. Automatiquement, quand je commence une amida, et même pas seulement dans une amida, même quand je suis sous ma couverture, je me rappelle qu'il y a un roi qui est là, qui est Omed Lifnei Ameler. Et c'est, normalement, chacun de nous devrait être à ce niveau-là. Les tzadikim arrivent à être constamment à ce niveau-là. Tu prends un tzadik, tu réveilles, 3h du matin, il te dit, Dieu, il est là, je sens Dieu. Nous, c'est plus difficile pour nous de sentir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Mais réfléchir à quelque chose comme ça, que Dieu, il a mis tout de côté, et qu'il nous regarde, qu'on est important pour Akadosh Baruch Hu, ça, c'est un sentiment que tout le monde peut avoir. Et avant, attendez deux secondes, et avant chaque mitzvah positive. Alors, ça serait bien qu'on l'ait tout le temps, mais dans les faits, c'est compliqué d'avoir ce sentiment tout le temps. Mais au moins, avant de faire une mitzvah. Au moins avant de faire une mitzvah. Tu vas mettre les tefilines. Tu vas faire ta amida, tu vas faire ton schéma, tu vas faire, avant de faire une mitzvah, prends 5 secondes et réfléchis à ce que je viens de te dire. Comment Dieu est très grand et que tu es tout petit et que Dieu m'a sélectionné et il me dit, Mendy Asoulin, ta mitzvah est très importante, je compte sur toi. Quand tu vois ça, quand tu vois ça, tu te dis, mais attends, Kadosh Baruch Hu, il dit que je suis très important. Donc, automatiquement, quand tu as ça, tu te tiens devant un Kadosh Baruch Hu avec une crainte devant lui. Alors, écoutez ce que dit l'Admor HaZaken. Veya Amik, page 230, Veya Amik de Marchavazo. Chacun de nous réfléchira profondément à cette pensée. À son niveau. Vous voyez, volontairement, c'est très flou ce qu'on a d'aujourd'hui. C'était très très vague. On n'est pas rentré dans les détails. Et dans les cours suivants, on aura des détails. On va donner des détails avec plusieurs mitzvot. On va prendre comme exemple la mitzvah du talit, la mitzvah des tefilines et plusieurs mitzvot. Et on va donner des exemples dans chaque mitzvah pour montrer comment dans chaque mitzvah, on peut sentir comment Dieu m'a sélectionné. On va donner des exemples concrets, des mitzvot qu'on fait tous les jours. Mais là, pour l'instant, on est général. Chaque mitzvah, je peux avoir ce sentiment. Le sentiment que je suis important. Et donc, tu dis, via amik pe marchavazo. on va s'approfondir dans cette pensée. Veya arirba, et on va s'y attarder. Kefi yecholet asagat mocho ou marchefto. Selon la capacité que j'ai dans mon cerveau. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se concentrer plus qu'une minute. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se concentrer plus que 5 minutes. Il y a des gens qui peuvent se concentrer 10 minutes. Essayez de vous concentrer quelques minutes d'affilée sur une idée. C'est très difficile. Il y a des gens, 2 minutes, ils n'arrivent pas. Ils craquent. C'est pas un problème. Je sais que lorsque le rabbi donnait ce conseil, parce que je vous ai dit que le rabbi a donné ce conseil aux gens d'apprendre par cœur le début de ce chapitre, jusqu'à là, que Omer l'Ifna Meler, jusqu'ici, jusqu'au la page 130, le rabbi leur disait d'apprendre par cœur et d'y réfléchir avant la tefila. Et il leur disait 10 minutes. Un autre, il lui a dit 5 minutes. Un autre, il lui a dit, toi, je te demande 30 secondes. 30 secondes. Essayez, mais faites l'essai, vous allez voir. Essayez de réfléchir à un même sujet, mais pas un sujet qui vous vient dans la tête. Un sujet que vous devez réfléchir. Parce que quand j'ai un sujet dans la tête, je pense à quelqu'un qui m'a énervé ou un truc comme ça, il peut rester des heures dans la tête, c'est pas un problème ça. Quand t'as quelque chose qui t'énerve, ça reste dans la tête. Ou quand t'as quelque chose que tu aimes, ça reste dans la tête. Je parle de quelque chose que toi tu dois réfléchir, auquel tu penses pas naturellement. Essaye de réfléchir à ça pendant 1 minute d'affilée, 2 minutes d'affilée, 3 minutes d'affilée. Vous allez voir que c'est très dur. Il faut s'habituer. Au début, on arrive à réfléchir 1 minute, après progressivement 2 minutes, après 3 minutes. Et c'est pour ça que dans le monde de la chassidoute, la hitbonenout est très importante. Hitbonenout, c'est la réflexion. C'est-à-dire que ne soyez pas étonnés si vous rentrez dans un beta midrash, une choule chabad ou de chassidim, et que vous voyez un jeune homme ou un rave assis comme ça, avec son talit et cette filine, et vous le voyez comme ça. Tu crois, ma boule. Et soyez pas étonnés.
Avec les yeux fermés ou pas?
Avec ou pas, c'est encore pire sans les yeux fermés. Tu le vois comme ça. Tu dis, qu'est-ce qu'il a celui-là? Vas-y, regarde. Il regarde qui celui-là? Eh ben, si vous le voyez, sachez que, Edman, non mais tu sens, quand tu es en train de rêver, tu vois, il est comme ça, tu vois. Mais quand tu es en train de réfléchir, tu vois, activement, tu vois, il est comme ça, il regarde, tu dis, il regarde quoi? Il regarde le plafond? Qu'est-ce qu'il regarde? En fait, le bonhomme, il est en train de faire hitbonenout. Il est en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir à une idée. Par exemple, à cette idée. Il y a d'autres idées aussi qu'on développera. Et des fois aussi, par exemple, il y a des fois des gens qui n'arrivent pas à réfléchir quand ils ont des choses autour d'eux, donc ils vont s'envelopper de leur talit. Des fois, tu vas dans les scénarios, tu vois quelqu'un qui s'enveloppe de son talit, comme ça, pendant 2 minutes. C'est pas pour prendre un somme. C'est parce qu'il sent qu'il a besoin de se concentrer, il y a des gens qui sont déconcentrés avec ce qu'ils ont autour, alors ils s'enveloppent leur talit. Pendant 2 minutes. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Pendant 2 minutes, il n'y a que moi et Hachem. Je dis bien moi et Hachem. Ça veut dire, je dis qui suis moi, qui est Hachem, et pourquoi moi, ma mitzvah est importante devant Hachem. C'est une autre dimension.
Ça marche. Hein.
Bien sûr, ça marche. Je vous promets, faites l'essai, je vous promets que ça marche. Ça marche. Ça, c'est des choses que j'ai dit à plusieurs personnes. Hein? Non, ça marche.
Te concentrer pendant quelques secondes.
La concentration change une personne.
Bien sûr.
Mais il faut réussir à le faire. Il faut vouloir le faire et réussir à le faire. Mais on peut le faire. Veya amig be marchav. Je reprends la page 230. Donc, deuxième paragraphe. Veya amig be marchav azo. Il réfléchira profondément à cette pensée. Veya arirba. Et il s'y attardera. Kefi yecholet asagat mocho marchavto. Selon la capacité d'entendement de son cerveau et de sa pensée. Comme on a dit, 30 secondes, 10 minutes, une heure. Moi, j'ai connu des chassidim qui étaient capables, en New York, de réfléchir à un même sujet pendant 2 heures. 2 heures d'affilée. Tu les vois pendant 2 heures réfléchir à quelque chose. On n'a pas idée. On raconte sur le Rabbi Rachel, je vous ai raconté cette histoire. Une fois, il était avec son fils, le Rabbi Yosef Yitzhak, Rabbi Rachel, il est parti dans ses pensées pendant 8 heures. Et pendant ces 8 heures, il a construit un discours chassidique qu'après il a dit pendant 3 ans. 3 livres des mamarines les plus profonds de Chassidoute.
En 8 heures.
8 heures de concentration d'affilée. On n'a pas idée la puissance du cerveau. Pas une pensée après l'autre. Concentration. D'affilée sur un sujet. Concentration. C'est énorme. Alors nous, on va essayer déjà 30 secondes. Une minute. C'est pas compliqué ce que je vous dis. Vous pouvez faire l'essai ce soir. Demain matin, surtout pour Shacharit. Shacharit, c'est encore plus important. Parce que quand Shacharit, on démarre bien, après, c'est pas pour le reste de la journée. 30 secondes avant de démarrer de filet. 30 secondes. On n'est pas à 30 secondes près, non? Une minute. Juste. Pose-toi. Tu viens de chez toi à la maison, t'as couru, t'as attrapé, t'as dit à ça à ta femme, t'as pris la voiture, il y a un qui t'a grillé à priorité, etc. Non, tu arrives à la synagogue, tu t'assois, tu il veut mettre tes filines. Calme-toi. Pose-toi. Assis-toi. Juste pose-toi. Réfléchis, qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je fais ici, là? Je fais quoi, là? Je suis venu pour faire quoi, là? Pourquoi je suis venu à la synagogue? Je fais quoi ici? Juste pose-toi, une seconde, une minute, d'accord? Pose-toi, juste, situe-toi, dis pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là? Ah, Dieu, il attend de moi que je fasse une fila, il faut que je me concentre, je suis important pour lui. Tu dis, tu baisses la pression, et là tu peux y aller. Mais si dès le départ t'arrives, t'es pressé, etc., tu mets une filet, une cour, etc., ça marche pas comme ça. On peut pas faire comme ça. Prendre son temps. C'est pas grave, alors, si on est en retard. Et alors? Je prends mon temps, je fais une bonne fila. Via amig, be marchafazo, kfia pnaï shelo, et bien sûr, selon le temps qu'on a, parce que des fois, on n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça que chez les chassidim, ils avaient l'habitude d'essayer d'avoir une bonne note, au moins le Shabbat. Il y en a qui a rajouté aussi le lundi, jeudi, il y en a qui a rajouté tous les jours. Et en fait, ça dépendait. Ça veut dire que le Shabbat, par exemple, il va réfléchir 10 minutes avant la Tfila, lundi, jeudi, etc. Chaque jour, après, chacun, je ne veux pas donner de quantité, parce que quand on a des quantités, c'est pas bon. Chacun doit adapter ça à son niveau. Mais c'est très important. Ne jamais directement attaquer une mitzvah. Prendre le temps, de prendre le recul et de prendre les étapes qu'on a dit. Ça, c'est un programme. Ça, c'est le programme. Ça, c'est le programme en ce moment. Ça, c'est le programme de la Torah. Le programme comme arriver à la crainte d'Hachem.
C'est même pour faire une fila sur un aliment. C'est vrai que si
Temps de... Quand tu prends un aliment,
on le fait machinalement.
Prends une pizza. Je prends une pizza. Dis-moi, attends, je fais quoi là? Pourquoi je fais une bras? Qu'est-ce que je fais? Je vais réciter une bénédiction. Je vais bénir Dieu. Ah, moi, je vais bénir Dieu. Ah, bah ouais, pourquoi? Je vais le remercier de m'avoir donné une pizza. Mais la pizza, je l'ai achetée chez David. Qu'est-ce qu'il me raconte le remercier? En plus, c'est M. Acosta qui me l'a offert. J'ai même pas payé. Les gueules étaient devant moi. Oui, mais tu comprends. Tu comprends cette pizza? Hachem, il a fait, depuis la création du monde, il y a eu des graines de blé qui ont été poussées, etc. Et des étapes plantées, semées, labourées, etc. Jusqu'à qu'à la fin, pour arriver à la farine qui vient, je ne sais où, dans un pays en France, qui est arrivée ici, et qui est là, et que maintenant elle attend que je fasse une bracha dessus pour le lever vers Hachem. Tout ça pour une pizza. Ah oui, t'as presque du mal à la manger. Tu attends doucement, elle est sacrée cette pizza. Tout est sacré. Alors il te dit, tu vas essayer de réfléchir à ça selon ton temps. Mais c'est, encore une fois, c'est quelques secondes. C'est pas des grandes choses qu'on demande. C'est des petites choses. Un tzadik, lui, il va être capable de faire des heures et des heures. Des petites choses. Lifnei esek haTorah mitzvah, avant d'étudier la Torah ou avant de faire une mitzvah, que moi lifnei levishat talit tefillin, comme par exemple avant de mettre le talit et les tefillin. Voilà. Donc demain matin, avant de mettre talit et les tefillin, on sait à quoi penser. D'accord? Mais Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on développera plus en détail la kavana qui est dans le talit, la kavana qui est dans les tefillin. Vous allez voir que c'est dans chaque mitzvah il y a un message. C'est-à-dire c'est pas Stam qui a 613 mitzvot. Bien sûr, on n'aura pas le temps de développer les 613, j'aurais bien aimé, mais on n'aura pas le temps. Mais on va développer quelques mitzvot, et dans chaque mitzvah, on va développer quel est le message de la mitzvah. Et quand tu comprends le message de la mitzvah, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et qu'est-ce que moi, kaviachol, j'apporte à Dieu? Ça va dans les deux sens. Et là, vous allez voir que vraiment, on se sent important, et c'est pas seulement important, on sent que ce que je fais est important pour un Kadosh Baruch Hu. Et quand je sens que ce que je fais est important, automatiquement je le fais. Quand je sens que ce que je fais, ça sert à rien, ben j'arrête de le faire. Mais si je sens que ce que je fais c'est important, tout de suite ça prend une autre ampleur. Voilà. Donc on fait que commencer. Le chapitre 41 est un chapitre qui est long. Et Bezrat Hashem, on va développer étape par étape avec plusieurs méthodes. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui.
Dans les exercices physiques, quand on fait une heure d'entraînement.
Ouais.